Vous n'hésitez pas. Parce que le plus bête, c'est celui qui ne pose pas de questions. Si tant est qu'on est bête. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu du virus du sida. Pourquoi ? Parce que ben, c'est à la mode. Parce qu'il y a environ 40 millions de personnes qui sont infectées par le virus au niveau mondial. C'est une infection récente. Alors que certaines infections, comme le virus de la grippe, comme la variole, comme la rougeole, ou comme la polio, sont des infections extrêmement anciennes puisqu'elles sont connues déjà des Égyptiens. Donc je vais essayer de vous faire un... Je ne sais pas si j'arriverai en 50 minutes, mais on verra bien. Sinon, on sautera des diapositives. Donc j'ai essayé de vous faire un petit historique sur la découverte des entités les plus simples du vivant. Certains disent que les virus ne sont pas vivants, d'autres disent que les virus sont vivants. En réalité, ils sont composés de, disons, de molécules chimiques qui appartiennent aux vivants. Carbohydrates, protéines, lipides et bien sûr acides nucléiques. Et je vais essayer de vous amener progressivement aux connaissances anciennes, enfin des connaissances anciennes, aux connaissances beaucoup plus récentes sur le HIV. Alors, pour commencer, la virologie, ben c'est l'étude des virus. Les virus, alors je ne sais pas si c'est très bien de vous penser. Voilà. Les virus, étude et fait, puisqu'on va les étudier, et en les étudiant, on va en conclure des faits. Et la science est faite de faits. S'il n'y a pas un fait, comme on dit, démontré, ou quelquefois discuté, puisqu'il n'est pas complètement établi, eh bien, le fait n'existe pas. Ça, il faut bien vous mettre ça dans la tête. Ensuite, les propriétés des virus. Alors, ce que je vais vous dire, c'est qu'en dépit du terme virus qui est égal poison, mauvaise odeur, etc., eh bien, la majorité des virus, en fait, ne sont pas pathogènes, c'est-à-dire ne vont pas causer des maladies aussi bien à votre corps qu'aux animaux, qu'aux plantes, qu'aux bactéries. Et, évidemment, quand on pense virus, on pense médicaments, puisque je suis infecté, j'ai la grippe, j'ai le rhume, j'ai la diarrhée, donc il y a des médicaments. Et au-dessus des médicaments, en quelque sorte, vous allez mettre vaccin. Pourquoi vaccin ? Parce que, dans votre esprit, si je suis vacciné, je serai complètement résistant à l'infection virale. Ce qui n'est pas vrai. Vous aurez un petit épisode d'infection virale, et ensuite votre corps va réagir. Donc vous aurez quand même des petits ennuis. Et on finira la conférence par la prévention. Puisque vous êtes jeune, vous êtes beau, vous avez la vie devant vous, et vous ne voulez pas être infecté par le HIV, parce que sachez que si vous êtes infecté aujourd'hui même par le HIV, eh bien, vous allez vivre toute votre vie avec les conséquences, bien sûr, économiques, sociales, intimes, que vous aurez à supporter. Alors, les faits historiques, je ne vais pas aller... Disons que ça va juste de 2000 avant Jésus-Christ jusqu'à nos jours. Et alors, parmi les gens que je voulais vous présenter, vous avez Ramsès V, qui, lui, a été infecté par le virus de la variole, vous voyez, jeune, et... Quand l'infection par le virus de la variole est maximale, eh bien voilà ce que ça donne. Ça, c'est une infection variolique. C'est une personne varioleuse. Ensuite, vous avez Alexandre le Grand, quelques centaines d'années avant Jésus-Christ. Vous connaissez Alexandre le Grand, vous avez fait de l'histoire. Comment il est parti de Grèce, enfin de Macédoine, pour aller jusqu'au fin fond de l'Afghanistan. Eh bien, en fait, lui, il est probablement mort d'une infection virale qu'on appelle le virus de la fièvre du Nil, qui est un peu comme un flavivirus, c'est-à-dire un virus de l'hépatite. Et ici, sur ce bas-relief égyptien, vous avez une jambe normale et vous avez une jambe atrophiée, ce qui est preuve que déjà les Égyptiens connaissaient la polio, la poliomyélite. Donc vous voyez, ça sont des exemples qui sont connus, qui sont répertoriés historiquement, montrant que les gens connaissaient déjà les conséquences, c'est-à-dire les pathologies associées aux infections virales. Parce que, par exemple, la variole, eh bien, ça causait, dans des conditions d'hygiène évidemment quelquefois déplorables, la mort de 1 à 2 enfants sur 5 nouveau-nés. Alors, plus près de nous, comment est-on arrivé à visionner ce qu'on appelait virus? Et à l'époque, au XVIIIe siècle, les virus, c'était toutes les entités microbiennes qui nous rendaient malades. C'est-à-dire, par exemple, les bactéries, les parasites et bien sûr les virus. Parce que le terme virus, vraiment tel qu'on l'emploie maintenant, est arrivé au début du XXe siècle. Donc ce monsieur, Anton van Leeuwenhoek, qui est un Hollandais, qui a un drapier hollandais, c'est lui qui a inventé le microscope. Enfin, il y avait eu quelques essais auparavant avec des lentilles pour agrandir le petit et l'infiniment petit, mais c'est ce monsieur qui était drapier de son état, qui gagnait beaucoup d'argent, et lui, il a inventé le microscope. Pourquoi ? Ben pour regarder si les fils de ses draps, bien tissés, étaient serrés ou pas très serrés. Et donc, grâce à ces microscopes, il a fait fortune, et en même temps, il était animé d'un grand esprit d'aventure et de curiosité, et il a donc de ce fait construit plus de 100, je crois même 200 microscopes différents. Mais c'est pas grâce à lui qu'on est arrivé ensuite à identifier les virus en tant que tels. On est arrivé à identifier ce qu'on appelle les animalcules, c'est-à-dire en réalité les bactéries, les parasites. Donc, ça, c'est la fin du XVIIIe siècle. Plus près de nous, toujours un peu après, vous avez Édouard Jenner qui a, lui, en quelque sorte, mis au point, paraît-il le premier, la vaccination antivariolique, qui était en réalité connue depuis les Chinois anciens et ensuite au sein de l'Empire ottoman. Mais lui en a fait une pratique, scarification, c'est-à-dire on scarifie, on gratte un peu le bras, on fait une petite coupure, et grâce à cette petite coupure, on injecte un virus dérivé du virus de la variole, qu'on appelle le virus de la vaccine, d'où le terme vaccination. Mais c'était connu de ça déjà au niveau des Ming, à environ 1500 ans avant Jésus-Christ. Ensuite, Louis Pasteur, chimiste et savant, qui grâce à ses filtres a permis de faire la différence entre bactéries et virus. En fait, à l'époque, on ne connaissait rien des virus. Mais il a pu voir que des entités infectieuses passaient à travers des vitres. C'est-à-dire ce qu'ils appelaient des entités ultrafiltrantes, ou des animalcules ultrafiltrantes. L'autre chose qu'il a pu montrer à l'époque, c'est que le vivant ne venait pas de rien, n'était pas de ex nihilo. Il a pu montrer que des extraits, disons, de milieux de culture, eh bien, allaient proliférer et ces animalcules proliféraient. Donc là, ça correspond aux bactéries. Donc deux découvertes essentielles qui sont à mettre à l'honneur de Louis Pasteur et aussi de Robert Koch qui à la même époque a été celui qui a découvert donc, le bacille de Koch, celui qui provoque des problèmes à la fois respiratoires au niveau des poumons et en même temps, parce que vous avez une tuberculose osseuse très importante à l'époque. Et enfin, le premier qui a véritablement identifier un virus, c'est un Hollandais, donc on finit en quelque sorte notre tour d'Europe, un Hollandais, ça c'est Anton van Beverink, qui a identifié le premier, ces virus, le virus de la mosaïque du tabac. Et en faisant des extraits de plantes de tabac, et essentiellement des feuilles de tabac, qui avaient des marbrures, eh bien il a identifié ces virus. Vous voyez, qui sont comme sous forme de bâtonnets et sont par microscopie électronique les premiers qui ont été identifiés en 1928 grâce aux travaux, disons, de microscopie électronique, puisque à cette époque, ce sont les premiers appareils qui ont permis d'identifier l'infiniment petit. Donc là, vous avez, en partant des premières observations technologiques et constructions technologiques de Anton van Leeuwenhoek, jusqu'aux l'identification des premiers virus, vous avez environ 2 siècles et demi. Vous voyez ? Donc là, on s'aperçoit que la biologie a commencé à évoluer lentement, Puis, en 50 ans, vous êtes passé de l'identification des premières bactéries par Louis Pasteur et par Robert Koch à l'identification, même pas 50 ans, 40 ans, c'est-à-dire à peine plus que deux générations, l'identification des premiers virus. Pas de questions ? Beaucoup plus proche de nous, il y a 50 ans, un peu plus de 50 ans, vous avez Francis Crick et Jim Watson qui ont identifié ici, bon c'est pas très joli, la double hélice de l'ADN, c'est-à-dire la structure même de notre patrimoine génétique. Donc ça c'était une découverte essentielle pour la compréhension de la génétique moderne. Une autre personne qui était à l'origine des premières manipulations génétiques, c'est Werner Harber, qui a mis en évidence chez les bactéries un phénomène, ce qu'on appelle la restriction d'hôte, c'est-à-dire qu'une bactérie peut réagir de manière extrêmement violente à l'infection d'un virus qui infecte cette bactérie. C'est ce qu'on appelle les bactériophages. Et les bactériophages sont partout dans la nature, peuvent infecter des bactéries de l'air, du sol, des eaux, et en même temps des bactéries qui vous colonisent. Et grâce à l'identification d'enzymes qu'on appelle des enzymes de restriction, eh bien, on commençait à manipuler l'ADN. Vous avez compris. Donc ça, c'est l'origine, les premiers pas, ça, c'est à la fin des années 60-70, c'est Werner Harber, un Suisse de Bâle. Plus proche de nous, vous avez Howard Temin, qui a identifié ce qu'on appelle la reverse transcriptase, vous avez peut-être entendu parler, ou certains parlent de la transcriptase inverse, et l'identification des premiers rétrovirus. Et son collègue, David Baltimore, donc je connais ces deux personnes, celle-là est morte il y a maintenant une dizaine d'années, et David Baltimore est toujours vivant, et ont obtenu en 1975 le prix Nobel pour justement pour la découverte de cette enzyme qu'on appelle la reverse transcriptase. Ce que vous avez certainement appris des gens, je pense, déjà la troisième ou la seconde, que l'expression génétique allait de l'ADN vers les protéines et les fonctions des protéines, donc ADN, ARN, fonction des protéines. Et ce que ces deux personnes ont découvert, c'est qu'une enzyme pouvait convertir l'ARN en ADN, qui ensuite, bien sûr, s'exprimait sous forme d'ARN, et cet ARN sous forme de protéines. Donc, tous ces personnages sont extrêmement importants pour la véritable explosion tant des manipulations génétiques, parce que maintenant vous savez qu'on parle beaucoup d'OGM, mais les OGM, à la base, c'est pouvoir manipuler l'ADN, le patrimoine génétique des organismes, et en même temps de le manipuler de manière encore plus sophistiquée grâce à la découverte de cette enzyme qu'on appelle reverse transcriptase par Howard Temin et David Baltimore. Alors, je passais là-dessus. Donc, on revient au terme de virus. Les virus sont partout. Ils sont dans l'eau, dans l'air et dans le sol. Et à votre avis, est-ce qu'en masse, en tonnes, est-ce qu'en tonnes, les virus sont-ils plus abondants que les bactéries, que les micro-organismes ? Et bien sûr, que tous les autres êtres vivants qu'on appelle eucaryotes. C'est-à-dire qu'est-ce que la masse totale, si on prend par exemple 1 millilitre d'eau de mer ou 1 millilitre d'eau de rivière, la masse totale représentée par les virus dépasse-t-elle celle correspondante aux bactéries, aux parasites, ou est-elle bien inférieure puisqu'ils sont tout petits ? Alors, votre avis ? Pardon ? J'entends rien.
Ça doit être supérieur.
Effectivement. Si on fait, évidemment, ça c'est aussi des calculs d'experts, si on fait un calcul pour savoir non seulement en nombre d'individus, mais rapporté à la masse de chaque virus, donc si on fait le calcul de savoir si les virus représentent une masse totale au niveau mondial bien supérieure à tous les êtres vivants, eh bien la réponse est oui. Et disons, les chiffres varient entre 10 et 100 fois plus de masse organique représentée par les virus que que par tous les autres êtres vivants, bactéries comprises. Donc vous voyez que les virus sont absolument partout. Donc c'est ce que je vous marque là. Alors, ce qui est important, c'est que vous avez essentiellement trois classes de virus. Ce qu'on appelle des virus exogènes, des virus endogènes et des virus dormants. Ça ne veut pas dire que dans certaines conditions, un virus ne peut pas être à la fois exogène, endogène et dormant. Mais par exemple, le HIV est considéré comme un virus exogène. Mais comme il se réplique, c'est-à-dire qu'il vous infecte, qu'il infecte une grande partie des cellules de votre corps, bien, il n'est pas dormant, il est actif. Par contre, vous avez d'autres virus, et j'y reviendrai dans un instant, qui de temps en temps se répliquent, c'est-à-dire se disséminent dans votre corps, puis votre système immunitaire répond, lui, il ferme la gueule, si je puis dire, et le virus ne se réplique plus, et il est à l'état, ce qu'on appelle, dormant. Et enfin, je vous donnerai quelques exemples de virus qui sont strictement endogènes, c'est-à-dire qui sont consubstantiels à votre génome. C'est-à-dire que dans votre génome adoré, que ce soit un homme, une femme, eh bien, vous avez une grande quantité de copies génétiques de virus. Et vous allez voir que ce nombre de copies est énorme. Alors, autre point important, vous avez des virus pathogènes. Pathogène, ça veut dire qu'il vous rend malade. Vous. Mais peut-être pas un autre animal avec le même virus. Et puis vous avez des virus non pathogènes. Et comme je vous disais tout à l'heure, les virus pathogènes comme le sida, en fait, sont rares. Heureusement pour nous. Vous avez quelques virus comme le rhume. Bon, là, vous êtes malade 2-3 jours et puis ensuite, il s'en va. Puis quand vous avez été malade une année, vous avez eu un bon rhume. C'est rare qu'au cours de la même année, vous ayez un deuxième rhume. Bien sûr, le virus du sida est un virus dit pathogène parce qu'il vous rend malade et sans aucun traitement, au bout de quelques années, vous allez mourir du sida dans des conditions qui ne sont pas très agréables. Par contre, vous avez beaucoup de virus qui ne sont pas pathogènes. Et en réalité, si je vous avais parlé au début du XXe siècle, je vous aurais dit... Par exemple, le virus de la grippe, par exemple, le virus de la rage, sont des virus et tous les virus sont pathogènes. Maintenant, au fur et à mesure que la science, si je puis dire, avance, entre guillemets, et découvre de plus en plus de virus, de plus en plus d'hôtes de virus, et de plus en plus de faits où les virus infectent plusieurs hôtes, eh bien, la majorité des virus ne sont pas pathogènes. Alors, à quoi servent-ils ? Ça, c'est une autre question. Et ces virus qui ne sont pas pathogènes, eh bien, en fait, se trouvent sous forme de séquences virales dans notre génome, le génome de son chat, le génome de son chien, le génome de son poisson, etc., etc. Ça va jusqu'à la Lune. Donc, vous avez des séquences virales, c'est-à-dire des virus endogènes, non pathogènes, qui occupent une énorme place, un énorme domaine dans votre génome. Ce qui n'est pas le cas, bien sûr, du HIV. Donc c'est pour ça que je vous marque que les virus sont consubstantiels à la vie, et certaines personnes dont je fais partie pensent que les virus sont probablement à l'origine du vivant. Mais ça, on pourra peut-être en parler. Alors, le vivant, là, c'est difficile à lire, mais vous avez trois grands domaines dans le vivant, dans tous les organismes vivants. Vous avez là les archées, qui sont des sortes de bactéries, mais très simples. Vous avez les prokaryotes. Ah bon ? Bien. Donc vous avez tout le grand domaine qu'on appelle les archées, Ensuite, vous avez les prokaryotes. Vous avez entendu parler de bactéries, comme Escherichia coli, pardon, comme Serracea marcescens, etc. Et ensuite, vous avez les eucaryotes. Les eucaryotes dont on fait partie, puisqu'on fait partie des eucaryotes supérieurs. Bon, les virus exogènes, c'est par exemple le virus du sida. Le virus du sida, d'où vient-il? Comment est-il? Comment se réplique-t-il? C'est-à-dire comment il se multiplie? Et ensuite, une fois qu'il est dans notre corps, en général, il y rentre soit par voie sexuelle, soit par voie intraveineuse. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait à notre corps pour que notre corps soit malade? C'est des tas de questions que vous pouvez vous poser. Alors, évidemment, ces questions vont faire appel à des réponses comportementales, votre comportement, vos désirs. Mais en même temps, on va faire appel à une problématique biologique. Et si jamais vous êtes infecté, on va faire appel à une problématique pharmacologique, c'est-à-dire comment vous traitez. Puis à la fin, vous allez revenir au social, à savoir comment communiquer à vos proches, à votre copain, à votre copine, que vous êtes malade. Donc ça, on l'abordera tout à fait à la fin, au niveau de la prévention. Donc maintenant, le virus sida, quel est-il? Donc, quand on parle virus, on a envie de parler objet. Est-ce que c'est une représentation valable du virus du sida? Pour ma part, je trouve que c'est une représentation simplissime de ce que c'est que ce virus. Puisque vous allez voir quelque chose en fait d'inerte. Donc là, vous avez une particule virale. Vous avez certainement entendu parler des nanoparticules. Vous voyez, 115 nanomètres de diamètre, 115 × 10⁻⁹ mètres. Donc vous voyez, dans un mètre, vous pouvez en avoir des millions. C'est tout petit et c'est très simple. Vous avez ici une enveloppe. À l'intérieur de cette enveloppe, vous avez ce qu'on appelle le cœur viral ou nucléocapside. Et dans cette nucléocapside, vous avez le génome du virus qui est un ARN, puisque c'est un rétrovirus. Donc je pense que vous savez ce que c'est qu'un ARN. Je pense que vous savez ce que c'est plus ou moins un virus. Donc ça, c'est un virus très simple et très petit. Donc ça, ce sont des photos que nous avons prises au laboratoire. Et là, vous avez un lymphocyte TCD4, le virus qui se forme et ensuite qui expulse, vous voyez, différentes particules. Alors, une des propriétés des virus, c'est que toutes ces particules ne sont pas égales. Donc, vous avez une population. Donc, dans votre tête, dans votre imaginaire, il faut penser, virus, c'est une population de particules. Ce n'est pas un visage, comme je vois chez mon copain, chez ma copine, chez ma maman, chez mon papa, etc. Non, c'est une population de particules qui sont un peu différentes les unes des autres, mais ça, c'est très important. Et c'est cette population de particules qui va pouvoir infecter un être humain ou éventuellement un singe. Maintenant, vous avez des virus qui sont très proches du virus du sida. Et donc, la question que je me pose, d'où vient-il ce virus? Pourquoi est-il apparu au milieu du XXe siècle, puisqu'on en trouve des traces au Congo? Congo-Brazzaville, République démocratique du Congo maintenant, dès la moitié du XXe siècle. D'où vient-il? Eh bien, un des ancêtres de ce virus, c'est un virus qu'on appelle un virus leucémogène murin, MLV, en anglais murine leukemavirus, qui en fait est présent chez tous les rongeurs. Vous connaissez les rongeurs? Les rats, les lapins, les souris, etc. Eh bien, tous ces animaux sont infectés par des virus, vous voyez, des petites balles de ping-pong, c'est strictement sans intérêt. Mais la composition de ces virus murins, leucémogènes murins, est quasiment la même que le virus du sida. La seule différence, c'est que ces virus-là ne peuvent pas vous infecter, vous, donc même si vous faites mordre par votre rat, ou par votre petite souris, ou par votre petit hamster, ne craignez rien, ça ne va pas vous infecter. Mais que ces virus infectent ces animaux. Mais pour autant, ces animaux ne sont pas malades. Donc ça, c'est un magnifique exemple où des virus très abondants qu'on appelle des virus leucémogènes murins, eux sont des virus totalement non pathogènes. Certains vont vous dire non, ils sont pathogènes. Effectivement, on peut les rendre pathogènes dans des conditions de laboratoire. Alors dans la nature, ils ne le sont pas. Vous voyez ? Donc ça, c'est une différence quand même très importante. Un autre virus qui est très répandu dans la population humaine, c'est le virus d'Epstein-Barr. Et je pense que la majorité des gens ici, quasiment 100%, sont porteurs du virus d'Epstein-Barr, qu'ils ont récupéré. C'est ce qu'on appelle le virus souvent du baiser, que la mère donne un baiser à son enfant, il a une petite infection, et c'est terminé. Donc ce virus, il est exogène, et il est dormant, totalement dormant, sauf dans des conditions où vous avez une immunodéficience, c'est-à-dire que votre système immunitaire ne répond mal ou répond pas à une autre infection virale. Et donc là, ça peut donner des cancers du nasopharynx. Mais c'est un virus qui est très répandu dans le monde et qui ne rend pas malade. Je vais passer là-dessus. Alors, les composants de base des virus, ce sont les composants de base du vivant. Des cellules, des organismes, des bactéries, des archées, des eucaryotes, des prokaryotes. Vous avez les acides nucléiques, ARN, ADN. Eh bien, ils sont là. Puisqu'ils vont dicter à la fois les structures du vivant et en même temps les fonctions du vivant. Ces acides nucléiques, à côté de cela, vous avez les protéines. Et les protéines et les acides nucléiques, eh bien, ils communiquent entre eux. Exactement comme dans un virus, ils communiquent. Exactement comme dans une cellule, ils communiquent. Évidemment, vous avez les lipides, plutôt sous forme de phospholipides. Donc là, vous avez les composants de base du vivant. Et sans ces composants de base, il n'y a pas de virus, il n'y a pas de bactéries, il n'y a pas de prokaryotes, il n'y a pas d'eucaryotes. Donc ça, c'est essentiel. Et c'est sur ces bases-là qu'on peut dire que les virus font partie du vivant. D'accord, ils ne peuvent pas eux-mêmes, ils n'ont pas suffisamment d'autonomie pour s'auto-répliquer, pour s'auto-multiplier. Ils ont besoin, quand en tant que parasite, d'une cellule, d'un organisme, d'une bactérie, d'un singe, d'un chat, etc. Mais ils font partie du vivant parce que ils ont ces trois composants de base du vivant. Alors, je vais un peu passer là-dessus. Quand on étudie les virus, on essaie de comprendre pourquoi un virus qui se réplique dans son corps ou dans le corps d'un animal va rendre éventuellement malade. Et ça, c'est une question fondamentale qui se pose évidemment aux biologistes, aux virologistes, mais évidemment aussi aux médecins. Comment est-ce qu'on peut détecter le virus ? Eh bien, c'est sur la base d'un diagnostic. Vous allez poser votre diagnostic et sur la base d'un certain nombre d'observations. C'est ce qu'on appelle le tableau clinique. Et en fonction de votre diagnostic, vous allez traiter les gens avec tel ou tel médicament et pas tel ou tel autre médicament. Vous avez une infection virale, on vous donne des antibiotiques. À votre avis, est-ce que c'est justifié ou pas ? Ben j'attends. Je suis très malade, monsieur docteur, donnez-moi des antibiotiques. Ça va servir à quelque chose ou pas ? Ben oui, tu as raison. Ça ne servira à rien. Par contre, de prendre du repos et un peu de vitamine C, des bons jus d'orange, un bon grog, là ça peut servir. Ok ? Cependant, il y a quand même quelques points de suspension. Cependant, si vous avez une grippe et que la grippe évolue vers une pneumopathie, c'est-à-dire des dommages au niveau de vos poumons, qui vont, eux, vont être dus à des bactéries, là, vous allez pouvoir et même devoir prendre des antibiotiques pour combattre non pas l'infection virale, mais les conséquences secondaires de l'infection virale qu'on appelle une surinfection bactérienne. Donc là, les antibiotiques serviront. Donc quelquefois, lors d'une grippe, il est indispensable de prendre des antibiotiques, mais pas tout de suite. Et dans le cas, par exemple, de la grippe dite espagnole, qui en fait était une grippe chinoise de Hong Kong, à la fin de la guerre 14-18, qui a causé la mort de 3 fois plus de personnes que la guerre elle-même, puisque ça a causé environ 40 millions de morts. En fait, la conséquence directe de l'infection virale, c'était une infection bactérienne, et les gens mouraient par destruction du tissu pulmonaire. Okay. Donc, il y a un équilibre entre les virus et les êtres vivants, entre les virus de votre environnement et votre corps. Que ça soit dans le métro, où il y a certaines promiscuités, mais peut-être qu'à Thiers, vous n'avez pas de métro. Mais si vous allez à Lyon, il y a un métro, et à 6 heures du soir, on se presse les uns contre les autres. Alors là, c'est les meilleures conditions pour des échanges de virus et des échanges de bactéries. Donc la promiscuité, c'est ce que je vous marque. Et la promiscuité, on le sait maintenant, c'est la cause fondamentale d'infections virales et d'infections bactériennes. Donc la promiscuité, c'est pas seulement les transports, mais c'est aussi l'habitat et la santé des populations. Donc vous avez un équilibre. Cet équilibre est respecté, le virus est maintenu en quarantaine, puis les gens sont très contents. Donc tout se passe bien. Dans certaines conditions, vous avez par exemple le virus d'Ebola. Lui, c'est un virus très 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 méchant, puisqu'en une semaine, la majorité des porteurs infectés meurent. Donc le virus explose. Mais comme les personnes sont tout de suite malades, elles n'ont pas le temps de voyager, elles n'ont pas le temps de transmettre la maladie virale, puisqu'ils meurent tout de suite. Donc là, on a affaire à une dissémination virale très réduite. Et à moins d'aller dans certaines zones d'Afrique centrale ou d'Afrique de l'Est, il n'y a aucune raison que vous soyez infecté. Ensuite, le cas du virus du sida, ou le cas des virus d'hépatite. Alors comment est-ce qu'on peut schématiser ça? Au début, eh bien, vous avez un équilibre. Ensuite, cet équilibre est rompu, c'est-à-dire au moment de l'infection, par voie évidemment sexuelle ou par voie sanguine, vous avez le virus qui rentre dans le corps, la personne ne sait pas qu'elle est infectée, mais rapidement, en quelques semaines, la charge de virale devient énorme dans le cas du HIV. Et si elle continue, on s'en va vers le sida, mais au bout de quelques années. Et en réalité, quand on dit que vous avez une séroconversion, vous passez de cet état-là à celui-ci. Donc le virus est maintenu en quarantaine par votre système immunitaire tant qu'il peut le maintenir en quarantaine. Et donc le virus est toujours là. Ça, il faut bien vous le dire, le virus est toujours là, mais grâce à la réponse immunitaire, vous êtes content et vous avez l'impression de ne pas être malade. Et sachez que si vous avez un rapport sexuel, vous pouvez transmettre très facilement le virus. L'autre chose, c'est que vous pouvez passer de cet état-là à cet état-là en prenant des médicaments qui vont contraindre le virus, c'est-à-dire qui vont l'empêcher de se multiplier. C'est ce qu'on appelle les trithérapies. Et donc vous allez aller dans cet état-là, mais toujours porteur de virus et toujours sous traitement. D'accord ? Ensuite, le dernier exemple, c'est le virus de l'herpès ou le virus Epstein-Barr, qui ont une large dissémination. Alors au début, pendant quelques jours, le virus va se répliquer très très fort, donc vous n'allez pas être très content, et rapidement, vous allez passer de cet état à un état où simplement votre système immunitaire va contraindre le virus et le virus va être dans un état dormant et de façon quasiment permanente, sauf jusqu'à la fin de votre vie où votre système immunitaire commence à vieillir, commence à s'épuiser et évidemment toute la physiologie du système immunitaire se désorganisant, le virus va pouvoir repartir. Mais ça, c'est normalement à la fin de la vie. Donc vous voyez que les différents états, c'est ce qu'on appelle l'homéostase entre le virus et les conditions physiologiques de la personne, qui peuvent changer selon la personne, selon l'âge de la personne et selon éventuellement des surinfections. Parce que dans le cas, par exemple, du virus du sida, une surinfection avec un virus d'hépatite est très fréquente dans la moitié des cas. Et lui, cette surinfection est très difficile à contrôler. Ensuite, d'où vient-il, quel est-il, et comment le contrer? Alors, ses origines directes, donc là, les particules virales, vous commencez à les connaître. OK? L'origine de ce virus, où est-il? On pense que le virus vient d'un virus de chimpanzé, extrêmement proche du virus du sida, qu'on appelle le virus SIV, le virus simien, CPZ pour chimpanzé. Et on le retrouve dans plus de la moitié des populations de chimpanzés. À la différence du HIV et de l'être humain, chez le chimpanzé, dans l'immense majorité des cas, il ne provoque pas d'immunodéficience, donc il ne provoque pas de maladie. Vous voyez ? Donc ça, c'est une très grosse différence. Et pourtant, au niveau de la constitution, de la construction de notre génome, entre les chimpanzés et nous, il y a moins de 0,1% de différence. Moins de 0,1% de différence. Ça, c'est très important. Donc ça, c'est une photographie vue en microscopie électronique avec des billes d'or et qui montre le virus du sida, vous voyez, avec des petites billes rouges qui représentent l'extérieur du virus et qui permet au virus de s'attacher à vos lymphocytes. Enfin non, éventuellement, bien sûr. Et qui va permettre au virus de rentrer et d'infecter des cellules comme les lymphocytes régulateurs ou comme les macrophages, et une fois qu'il est rentré, il s'y multiplie et produit des milliers de particules chaque heure qui, elles, vont infecter d'autres cellules et, dans le cas de transmission de personne à personne, vont infecter d'autres personnes. Et sachez qu'une fois que les lymphocytes sont infectés, ils vont produire chaque heure plusieurs dizaines de milliers de particules comme ça, chacune étant capable d'infecter d'autres cellules. Donc là, c'est ce qu'on appelle la primo-infection, c'est-à-dire qu'il y a une explosion de la production de particules virales quelques jours après ce qu'on appelle l'infection initiale, qu'on appelle en latin ab initio. Il y a un deuxième virus du sida qui est beaucoup moins pathogène. Donc le premier, c'est le site chimpanzé qu'on appelle HIV1. Vous avez le HIV2. Eh bien, le cousin germain du HIV2 qu'on retrouve chez les chiens, le macaque, donc virus simien de macaque, comme ici dans le nord du Japon, vous avez une origine probable du deuxième virus du sida qu'on appelle HIV2. Et en Afrique, vous avez le virus du singe vert, qui est très proche du HIV2, et qu'on pense que c'est une transmission entre le singe et l'homme, qui est à l'origine des premières infections qu'on trouve surtout en Afrique de l'Ouest par le HIV2, mais qui est nettement moins pathogène et qui est, disons, circoncis à cette région du monde. Donc, on pense, avec des bonnes raisons de le dire, que le HIV, ses origines directes sont le chimpanzé et probablement le singe vert, et qu'il y a eu des passages directs entre communautés animales et humaines. Vous voyez ? Et ça, c'est pas rare, puisque dans le cas, par exemple, de la virus de la grippe, c'est entre cochons et humains, ou quelquefois entre chevaux et humains. Donc c'est quelque chose qui est... Le virus de la fièvre du Nil, c'est la même chose. Ce n'est pas rare. Donc l'origine lointaine du HIV, pas seulement du HIV, quelles sont les origines lointaines du SIV? Quelles sont les origines lointaines des virus leucémogènes murins? Est-ce qu'on trouve quelque part dans des organismes vivants ses origines. Alors là, c'est le MLV que je vous ai présenté tout à l'heure. Et la MLV, ben, ça infecte les petites souris. Les petits mulots, les petits rats, tous les rongeurs. Mais tous les rongeurs sont infectés par ces virus, qui sont très proches du virus du sida. Alors vous allez me dire, mais comment ce virus de rongeur a été infecté les singes? Dans quelques cas, on le voit. Des virus de rongeur qui infectent le singe, probablement parce qu'il y a le singe, quelquefois, est carnivore, il va manger des rongeurs. Mais comment ça s'est passé? Ça, on ne sait pas. Donc, l'ancêtre ancien du virus HIV, chez la petite souris. Chez les petites souris. Mais ce n'est pas pour autant, comme je disais tout à l'heure, que ce virus de sémogène murin va vous infecter. Ne craignez rien. Parce qu'on le retrouve aussi chez les lapins. Donc vous pouvez manger du lapin. Pas de problème. Ensuite, en remontant l'arbre de la vie, parmi les eucaryotes anciens, vous trouvez les levures. Et les levures, ça sert à faire quoi? Vous savez? Du pain. Du pain, oui. Seulement? Ah, des gâteaux. Oui, c'est bon. Vous ne buvez jamais de bière?
Non,
jamais.
Jamais, hein. Whisky.
Ah bon? Vous ne buvez jamais de bière?
Non,
ah bon.
Jamais.
Jamais de vin non plus. Vous ne buvez jamais de vin?
Whisky.
Ah bon. Eh bien, la levure, c'est bien sûr un eucaryote extrêmement répandu, avec un impact économique énorme. Eh bien, dans ces levures, levure de bière, levure de boulanger, etc., vous avez des particules virales. Et ces particules virales, elles ont toutes les caractéristiques, mais en simplifié, du virus du sida, puisqu'ils se répliquent de la même façon. Alors les levures, vous avez les levures qui s'est multipliée en aérobie ou en anaérobie. Mais je pense que ça, vous l'avez sûrement vu en SVT. Ok. Et vous trouvez les levures dans la nature, où vous allez les trouver? Oui, les fruits, ça vous dit quelque chose, les fruits? Il y a des arbres qui ont des fruits, là. Vous connaissez des arbres fruitiers? Ah, les cactus, ah oui. Faudrait t'asseoir dessus, peut-être. Bien. Donc, ces levures, en général, sont bourrées de virus anciens, qu'on appelle des éléments transposables, peu importe du terme, mais qui ont toutes les caractéristiques du virus du sida, et qui s'y multiplient, et chez toutes les levures de la création. Donc on peut penser que les très très lointaines origines du virus du sida sont dans la levure. Ensuite, on retrouve aussi chez les nématodes, qu'on retrouve aussi chez les oiseaux, et ensuite, bien sûr, chez les mammifères. Alors la grande question est, pourquoi est-ce que ce virus, tout d'un coup, est passé du singe à l'homme? Alors là, on pourrait parler du réchauffement de la planète, on pourrait parler tout simplement des mouvements de population, donc des changements socio-économiques et politiques. Donc les lointaines origines du virus du sida sont ce qu'on appelle, donc un terme relativement moche, qu'on appelle les rétrotransposons. Ça veut dire que cet élément génétique se réplique par réverse-transcription, donc de l'ARN à l'ADN, et cet ADN va dans l'ADN de l'hôte. Et ensuite, s'exprime. Donc c'est quasiment un jeu de rôle qu'on retrouve, je pense, dans la majorité des génomes. Alors, parler un petit peu de génétique, là on va aller à un degré un peu plus compliqué. Donc vous savez que dans l'ADN, vous avez ce qu'on appelle des séquences codantes, qui vont coder pour des protéines, qui vont coder pour des enzymes, puis des séquences régulatrices. Et les séquences régulatrices du point de vue génétique sont essentielles. On ose espérer que du point de vue politique et économique, il y ait aussi ce genre de séquences régulatrices. Ça faciliterait beaucoup la vie des gens. Mais malheureusement, pour l'instant, il y en a peu. Donc, dans le cas de la levure, vous avez des séquences régulatrices qu'on appelle les LTR, peu importe de ce que ça veut dire, mais ce sont des séquences régulatrices qui disent on démarre ici et on s'arrête là. Et on peut s'exprimer quand la levure, par exemple, se multiplie, et quand la levure ne se multiplie pas, on arrête de s'exprimer. Okay. Ensuite, vous avez les protéines de structure. Ce n'est pas un gag, mais ce sont des protéines de structure. Et ensuite, vous avez des enzymes. Dans ces enzymes, vous en avez trois qu'on appelle une protéase, une transcriptase inverse et une intégrase. Peu importe les termes. Eh bien, dans les rétrovirus comme HIV, en plus de séquences régulatrices, des séquences de structure, des enzymes, vous avez l'enveloppe que je vous ai montrée tout à l'heure. Et l'enveloppe permet justement à la particule virale d'aller d'une cellule à l'autre, et ensuite de cellule à cellule, et ensuite d'organisme à organisme, et ensuite de population à population. Donc c'est un facteur déterminant dans la dissémination. Mais là, vous avez un ensemble génétique de régulation et en même temps de dissémination qui est extrêmement efficace. Extrêmement efficace. Donc, là, ce sont des virus essentiellement exogènes. Là, ce sont des éléments génétiques, probablement des virus anciens, essentiellement endogènes, qui sont consubstantiels au génome, mais évidemment à la vie. Et enfin, vous avez des éléments dont je parlerai très peu ici, si ce n'est pour dire que ces éléments dérivent probablement de ces éléments-là génétiques, c'est-à-dire c'est une simplification d'un rétrovirus qu'on va retrouver sous forme de centaines de milliers de copies dans votre génome. Alors, comment est-ce qu'on peut comprendre que ces éléments génétiques, y compris le HIV, une fois qu'ils sont intégrés, c'est-à-dire que si vous avez une seule copie de HIV dans une cellule de votre organisme. Comment s'exprime-t-il? Puisqu'il va être intégré dans votre génome. Et il va s'exprimer tout le long de la vie de la cellule. Eh bien, ici, il va s'exprimer par l'intermédiaire de ces séquences de régulation. Ensuite, vous avez certainement vu la transcription de l'ADN, ça donne de l'ARN. Et cet ARN, lui, va être réversanscrit, c'est-à-dire, il va être reconnu par les enzymes, qu'on appelle la réversanscriptase, qui va copier cet ARN en ADN, et l'intégrase, qui va intégrer cet ADN dans un autre endroit probable, dans une autre cellule de votre corps. Ça va être la multiplication. Donc, grâce à ça, le virus, que ça soit le HIV, que ça soit le MLV ou même le TY de levure, va pouvoir se disséminer dans le génome et y rester à demeure. C'est ça que vous mettiez dans votre crâne, y rester à demeure. Je vais passer. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'une des origines très probables du virus HIV, c'était dans des virus de rongeurs, des virus de souris. Et en fait, ces virus-là, vous les retrouvez aussi dans votre génome, sous forme de copies dormantes. C'est ce qu'on appelle les human endogenous retroviruses, donc les rétrovirus endogènes humains. Petit clin d'œil. Donc vous avez ici des chromosomes. Et grâce aux prouesses technologiques récentes, c'est-à-dire le séquençage à haut débit, vous savez que le génome humain est connu pour la plupart, au point de vue séquence. Chaque chromosome a été étudié, a été séquencé, et ensuite a été analysé grâce à l'informatique. Donc là, on a une conjonction de prouesses technologiques au niveau du séquençage de l'ADN, au niveau de son analyse et bien sûr au niveau de sa compréhension. Et actuellement, vous pouvez faire partie de grandes équipes qui étudie les génomes de souris, les génomes de batraciens, les génomes de levures, etc., pour comprendre comment l'évolution s'est faite au niveau de l'organisation générale des génomes. Et comparer, par exemple, des gènes présents dans la levure, ensuite présentes chez le nématode, ensuite présentes chez les oiseaux, puis chez des petits mammifères, et ensuite chez des grands mammifères. Et tout ceci est compliqué, pourquoi ? Parce que vous avez ici, en bleu, les gènes. Les gènes, qui vont coder pour la couleur des yeux, la couleur des cheveux, la couleur de votre peau, etc., etc. Mais en rouge, sur un chromosome, le chromosome 22, ça, vous voyez, c'est paru en 2001, vous avez tous les virus endogènes. Et vous voyez que, et donc, si vous pouvez faire la même analyse sur un autre chromosome, le résultat sera le même. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ces rétrovirus endogènes sont extrêmement abondants dans notre génome. Et donc, en partant de ce constat, on en conclut, mais ça c'est une hypothèse, que l'émergence du HIV est un événement rarissime. Et de cette émergence d'un événement rarissime, aussi bien chez le singe et ensuite chez l'homme, on en arrive à un événement encore plus rarissime, qui est le fait que le HIV soit pathogène. Donc, premier événement rarissime, l'émergence d'un rétrovirus exogène. Deuxièmement, qu'il soit pathogène, c'est-à-dire qu'il provoque des maladies chez vous. Donc, c'est pour ça que quand vous analysez des faits dans la vie et qu'on vous dise « Oh, c'est rare ou c'est rarissime, c'est pas important », détrompez-vous. Ça peut être excessivement important. Excessivement important. Donc, même si c'est rarissime, et dans le cas du HIV, c'est probablement un double événement rarissime, les conséquences au niveau mondial, et bien sûr en Europe occidentale, sont importantes puisque ça a changé la vision des gens, la vision que les gens ont, en fait, des rapports humains et des rapports amoureux. Donc, les conclusions pour l'instant, ces rétroéléments dont le HIV fait partie sont abondants chez tous les organismes vivants, de la levure à l'homme. Et j'insiste, de la levure à l'homme. Et ces éléments vont modifier en permanence le contenu génétique, mais en ce qui concerne le HIV, le comportement des individus, des populations, des gouvernements. Et ce que je voulais vous dire aussi, pour conclure, c'est que ces éléments génétiques qu'on retrouve chez la levure sont probablement déjà des éléments fondateurs des rétrovirus et du virus du HIV, du sida. Est-ce que vous avez des questions ? HIV, quel est-il ? Nouveaux antiviraux. Alors, à nouveau, un schéma très simple. Donc là, vous avez deux particules, ce qu'on appelle une particule infectieuse mature et une particule immature. Quand vous regardez du point de vue schématique, mais à nouveau, c'est schématique. Il ne faut pas faire dire un schéma plus que ce qu'il veut dire. Vous avez les enveloppes, vous voyez, sous forme de trimères, peu importe leur structure, mais c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure avec les petites douilles rouges. C'est ce qui permet au virus de rentrer dans des macrophages et dans des lymphocytes T. Et qu'est-ce qui rentre ? Eh bien, vous voyez en rouge ici, c'est l'ARN. Mais il n'y a pas une copie d'ARN, mais deux copies d'ARN, qui quelquefois sont identiques, quelquefois sont différentes, mais légèrement différentes. Alors, l'intérêt d'avoir deux molécules d'ARN, c'est ce que Howard Temin appelait la sexualité chez les rétrovirus. Et la sexualité au niveau des populations, humaines ou animales, c'est à la base de quoi ? Oui, d'accord, c'est à la base de la reproduction, mais du point de vue génétique. Ben, du brassage. des caractéristiques, des caractères génétiques, du brassage. Vous voyez, ça, c'est excessivement important. Si vous n'avez pas de brassage, dans certaines populations reculées, vous avez quelques maladies qu'on appelle des maladies génétiques, qui se transmettent de génération en génération. Et le brassage génétique, ça évite justement, ça amoindrit ces problèmes de maladies génétiques. OK ? Malheureusement, comme le virus, lui, se réplique très très fort, et beaucoup, eh bien, dans la majorité des cas, les deux ARN sont différents. Et vous allez avoir un brassage, et qu'est-ce qui va provoquer ce brassage ? Eh bien, l'émergence de virus résistants au traitement médicamenteux. Donc ça, c'est une notion importante. Je vais bientôt finir. Bon, ça, je vais passer parce que c'est un peu compliqué pour vous. Alors, rapidement, vous avez un virus qui rentre. Là, vous avez la cellule. Vous avez le noyau viral. Le virus rentre dans la cellule. Vous avez conversion de l'ARN en ADN. Et cet ADN va s'intégrer. Une fois qu'il est intégré dans le noyau de la cellule, il s'exprime. Et il produit des virus en très grande quantité. Très, très grande quantité. Comment fait-on maintenant pour éviter que ce virus se réplique, se multiplie ? Eh bien, ici, on ajoute des anti-réversances strictases. C'est par exemple la ZT, vous en avez certainement entendu parler. Et aussi du 3TC, etc. Donc, ils vont bloquer cette étape. Malheureusement, ils ne le bloquent pas complètement. À l'opposé, au moment où le virus sort, vous avez des antiprotéases. Et ça, vous passez d'un virus qui est infectieux à un virus qui n'est pas infectieux, qui sort. Donc, en médecine, à l'heure actuelle, on utilise essentiellement deux antiréversances triptases et un ou deux antiprotéases. Donc ça, ce sont des médicaments qui sont utilisés couramment en médecine thérapeutique en Europe et donc en France. Maintenant, il y a de nouveaux médicaments qu'on appelle les anti-intégrases qui vont empêcher l'ADN du virus de s'intégrer dans le génome de l'hôte. D'accord ? Et ça, ça va être maintenant mis, je dirais, sur le marché thérapeutique en France. Donc quand on vous parle de trithérapie ou de tétrathérapie, trithérapie, vous avez deux anti-RT et un antiprotéase. Tétrathérapie, vous avez deux anti-réversances triptases et deux antiprotéases. Le problème, c'est que ces médicaments ne sont pas efficaces à 100% et il faut que les gens le prennent de façon permanente. Donc là, j'ai un exemple pris au laboratoire de cellules T qui produit des virus. Et vous voyez que quand la cellule se met à produire des virus, vous en avez en quantité énorme. Et ça, c'est à un moment donné. C'est un cliché à un moment donné. De lymphocyte TCD4 qui produit des particules virales HIV. Donc, ce que je voulais vous montrer, ça, c'est l'enzyme réversance strictase. Et le médicament, il vient, par exemple, se figer la structure de l'enzyme. Une fois que la structure est figée, ça ne fonctionne plus. Et c'est pour ça que c'était un médicament qui est largement utilisé en médecine thérapeutique. Voilà, je vais passer. Donc, HIV et SIDA. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Le HIV est un virus simple et pathogène qui se répand dans le monde et circule via des relations sexuelles et les injections intraveineuses. Son origine directe, c'est le SIV, soit de chimpanzé, soit de macaque, soit de singe vert africain. Donc probablement par le biais de contacts, souvent fréquents. Si vous avez, j'ai vécu en Afrique, effectivement, on vit au milieu de ces petits singes qui vous mordent, et en mordant peuvent vous provoquer effectivement une infection virale. Donc des contacts entre communautés animales et humaines. Ensuite, le HIV, bon, je n'ai pas eu le temps de développer cette stratégie de camouflage, mais sachez que comme le HIV se multiplie extrêmement vite, à très haut niveau, eh bien, grâce à ça, il va ce qu'on appelle muter. C'est-à-dire qu'il va y avoir des petits variants qui vont échapper au système immunitaire, qui vont échapper au traitement, et ce qui fait qu'à la fin, au bout de 10-15 ans, les personnes ne pourront plus réagir contre le virus, soit par le biais de leur système immunitaire, soit par le biais de médicaments, soit par le biais des deux. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'échappement viral. Et cet échappement viral va correspondre à l'émergence, l'arrivée du sida et la mort de la personne porteuse. Je ne développerai pas le problème des vaccins, que je signale ici, puisque, comme vous le savez, les derniers essais de vaccins ont été un échec. Alors, à votre niveau, au niveau personnel, au niveau social, de vos contacts amoureux, je voudrais terminer par le fait qu'un remède général existe, à faible coût et à fort contenu socio-éducatif. Alors, quel est-il? J'imagine que vous le savez. C'est la prévention. Par la connaissance et l'éducation familiale, éducation nationale et des campagnes d'information. Comprendre le virus du sida, c'est pas seulement comprendre le virus du sida, mais c'est aussi comprendre que une relation amoureuse, c'est très important dans sa vie personnelle, dans sa vie de couple, dans sa vie sociale, mais ça peut être un biais par lequel arrivent des infections indésirables, en plus du sida, des maladies sexuellement transmissibles, comme l'herpès simplex de type 2, comme les gonococcies, etc., etc. Et donc je pense, pour ma part, qu'en échangeant, en se parlant, en expliquant, en débattant entre vous, au niveau individuel, petit niveau collectif, on peut éviter ces pièges. Ça ne veut pas dire qu'on va les éviter à 100%, mais on peut les éviter. Et je pense que ça, c'est une vision différente qui permet de relier la virologie fondamentale à la virologie médicale et au comportement de vous, jeunes adultes. Et évidemment, si vous êtes infecté, eh bien, il faut premièrement le reconnaître, ce qui peut quelquefois être très, très douloureux. J'ai eu des amis qui ont été infectés. C'était très douloureux d'accepter le fait qu'on est porteur et que ça va changer complètement son mode de vie, complètement sa vie. Donc, c'est d'accepter l'infection, se traiter et le faire savoir. Et je pense que ça, c'est indispensable. Donc, je dirais que je terminerai par prévention, prévention et prévention par l'éducation, puisque nous sommes dans un lycée. Et ça, c'est, je pense, au niveau humain, la plus belle des activités, c'est l'éducation. Alors, vous connaissez les préservatifs, messieurs. Eh bien, voilà quelques exemples. Et je pense qu'il faut que ces demoiselles ou ces dames sachent que c'est un moyen de prévention absolument imparable s'il est bien utilisé et s'il est mis suffisamment avant. Voilà. Je voulais remercier au niveau de mon laboratoire ou les diapositives que je vous ai montrées. Donc ça, ce sont des personnes qui travaillent dans le laboratoire ou qui ont travaillé dans le laboratoire que j'ai créé à Lyon, de virologie humaine, avec beaucoup de financement français, européen, américain, avec beaucoup de collaborations que vous ne connaissez pas. Et si vous voulez donner, messieurs, dames, quelques sous à SIDAction qui participe, qui initie des campagnes de lutte contre le sida, vous pouvez. Vous allez sidaction.org. Et je voulais vous remercier pour votre attention.